première chose, déjà, bonjour. Merci, monsieur Bruno Robès, d'avoir accepté déjà notre invitation.
Je vous remercie de m'avoir sollicité.
Et première chose, j'ai envie de vous poser une question, c'est de vous présenter. Qui êtes-vous?
Donc, Bruno, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Cergy-Pontoise. J'ai d'abord été instituteur pendant une quinzaine d'années dans des banlieues difficiles de la région parisienne. Et mes sujets d'intérêt et de recherche concernent les problèmes de violence, d'autorité, d'enseignement, de discipline scolaire, de sanctions, mais aussi les pédagogies différentes, coopératives, institutionnelles et aussi bien sûr la pédagogie différenciée.
Donc c'est justement pour ça qu'on vous a sollicité, c'était pour cette pédagogie différenciée. Donc la première question la plus simple, c'est qu'est-ce que la différenciation pédagogique, alors?
Alors, on pourrait dire très simplement que différencier la pédagogie, c'est déjà faire travailler ensemble des élèves de niveaux différents. C'est permettre à chaque élève de progresser à son rythme en partant de son niveau actuel. Et c'est certainement le défi le plus difficile aujourd'hui auquel les enseignants sont confrontés et pour lequel, de mon point de vue, ils ne sont pas suffisamment formés. Alors, on distingue habituellement la différenciation successive et la différenciation simultanée. Alors, la différenciation successive, elle consiste à alterner différents outils et différentes situations d'apprentissage dans un même cours en fonction d'un objectif qu'on a repéré au préalable. Et la différenciation simultanée, qui est plus complexe à mettre en œuvre, elle consiste à faire travailler en même temps des élèves qui s'adonnent à des activités diverses, adaptées à leurs besoins. Alors, généralement, ces élèves vont être assemblés par groupes de compétences ou de besoins. Et les tâches, donc aussi les objectifs, sont différents pour chaque groupe d'élèves. Alors cette organisation, elle pose au professeur une question essentielle qui est comment permettre aux élèves qui sont faibles d'acquérir progressivement les compétences des plus forts, ou tout au moins d'accéder à un niveau de maîtrise correspondant à ce qui est attendu dans les programmes officiels. Et l'enjeu, c'est bien de permettre à tous d'atteindre au bout du compte un niveau minimal de connaissances qui est défini par les programmes officiels, d'atteindre aussi ce qu'on appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc c'est ça tout l'enjeu et tout l'intérêt de la pédagogie différenciée. On peut d'ailleurs aussi considérer que l'aide, l'entraide ou le tutorat sont d'autres modalités aussi de pratique de pédagogie différenciée, d'autres moyens de la pratiquer.
Très bien. Philippe?
Oui, donc on vient de voir un petit peu la définition donc de la différenciation pédagogique, mais maintenant, quelles sont les différences entre différencier et diversifier en fait?
Alors oui, cette question m'a d'abord surprise en fait quand je l'ai lue, jusqu'à ce que j'entende un responsable politique de droite, Bruno Le Maire, réagir à la réforme du collège actuel en proposant de mettre en place un collège diversifié. Du coup, je me suis dit que peut-être cette idée de diversification qui circule actuellement était liée à cette prise de position récente d'un responsable politique qui a lui-même d'ailleurs été professeur. Et ce qui m'inquiète dans cette notion de diversification, c'est que je crains fort qu'elle ne se transforme en orientation précoce des élèves en difficulté dès l'entrée au collège. Avec le risque de les mettre dans des voies de relégation, alors qu'il faudrait au contraire différencier la pédagogie pour que tous les élèves arrivent à la fin de la scolarité obligatoire avec ce socle commun de connaissances qu'il l'ait acquis. Et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des pays développés qui ont un système scolaire performant, comme le montrent les enquêtes PISA. Donc, à mon avis, il faudra faire très attention à l'avenir. Entre les différents termes utilisés pour parler d'individualisation, de pédagogie différenciée ou de diversification, la différenciation pédagogique, la pédagogie différenciée fait référence à un certain nombre d'auteurs, de chercheurs en éducation, hein, qui ont travaillé ces questions-là depuis pas mal d'années et qui ont produit des réponses, d'ailleurs que peut-être les jeunes collègues ne connaissent pas, mais sur lesquels il faut s'appuyer pour parler de pédagogie différenciée aujourd'hui. Et faire attention aux terminologies qu'on emploie. Et je pense que je vais avoir l'occasion de répondre aussi à ces questions de terminologie un petit peu plus tard.
Parce qu'en fait, nous, derrière le mot diversifier, en fait, on se posait la question, c'était bien si un jour je fais une carte mentale, un jour je fais un travail pratique avec mes élèves, est-ce que le fait justement de varier ces supports, de diversifier en fait ma pédagogie, ça entrait dans le champ de la différenciation?
Alors, il est vrai que ce que préconise, par exemple, quelqu'un comme Philippe Mérieux, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, c'est qu'il est important de varier les façons de présenter le savoir, de varier les démarches et les supports d'apprentissage. Ça, ça participe effectivement d'une différenciation pédagogique. Simplement, je me méfie de l'emploi d'un certain nombre de termes aujourd'hui. Oui, bien sûr, il faut diversifier les supports, les modalités de présentation du savoir, les modalités de les opérations mentales qu'on va mobiliser chez les élèves, tout ça bien évidemment participe du processus de différenciation au sens où il est important de ne pas enfermer un élève dans un mode de pensée, dans une façon d'accéder aux connaissances. Ça oui, d'accord. Et je dirais quand même attention aux termes qu'on va voir, qu'on voit déjà d'ailleurs, fonctionner, enfin qu'on entend prononcer, les mots qu'on entend prononcer actuellement dans les débats sur ces questions d'individualisation, de différenciation, de diversification, parce que derrière ces mots, il y a certainement des façons différentes de concevoir le système éducatif et notamment la façon d'aider ou pas justement les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc si on parle de pédagogie différenciée ou de différenciation pédagogique, appuyons-nous sur les travaux existants chez les pédagogues qui ont travaillé ces questions-là ou chez les chercheurs en éducation comme Louis Legrand, Philippe Mérieux, Philippe Pernoud et d'autres encore plus récemment, qui sont les gens des cahiers pédagogiques par exemple, qui continuent à travailler sur ces questions-là aujourd'hui.
D'accord.
Voilà, c'est ça que je veux dire.
Ouais.
Justement, vous avez parlé d'individualisation, ouais. Donc la différenciation, donc c'est pas forcément individualisé en fait.
Alors, effectivement, l'ère du temps pédagogique est à l'individualisation aujourd'hui. Il y a l'idée circule qu'on pourrait apprendre sans les autres. Certaines pédagogies aujourd'hui qui connaissent un regain d'intérêt, je pense à la pédagogie Montessori par exemple, semble assez bien s'accorder avec cette individualisation. Je ne suis pas contre la pédagogie Montessori par rapport à tout ce qu'elle a pu développer comme outil pour permettre aux élèves de mieux apprendre, mais je remarque simplement que c'est une pédagogie qui s'accorde peut-être plus que d'autres, la pédagogie Freinet par exemple, avec l'idée d'individualisation qui est dans l'air du temps. Et je pense en effet que l'individualisation n'est pas qu'une modalité de différenciation pédagogique, ou plutôt, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, je pense que l'individualisation n'est qu'une modalité de différenciation pédagogique parmi d'autres. Et il serait dangereux, à mon avis, de ne proposer aux élèves que du travail individualisé. C'est ce qu'ont montré de nombreux pédagogues, qu'on apprenait aussi grâce aux interactions avec les autres, lorsqu'il y a ce qu'on appelle du conflit socio-cognitif, qui permet de confronter ce qu'on sait, ou ce qu'on croit savoir, avec ce que les autres élèves savent. Le professeur étant au final celui qui est garant que les savoirs acquis sont valides. Donc le travail individualisé, en fait, ce n'est pas une nouveauté. Dès les débuts du mouvement pédagogique de l'éducation nouvelle, au début du XXe siècle, il y a différentes expériences de travail individualisé. Le plan Dalton aux États-Unis, l'expérience de Carl Washburn en Angleterre ou de Robert Dautrin en Suisse. Ce sur quoi Freinet a insisté, Freinet qui connaissait d'ailleurs toutes ces expériences-là, hein, c'est qu'avec la volonté de faire progresser chacun et de garantir les acquisitions de chaque élève, le professeur doit aussi avoir le souci permanent de la finalisation des apprentissages dans des activités collectives. C'est-à-dire la différenciation pédagogique, c'est vraiment faire progresser chacun et garantir ses acquisitions, tout en permettant que l'élève apprenne aussi dans le cadre d'activités collectives, d'où cet ensemble de techniques, d'outils développés par la pédagogie coopérative. Donc c'est vraiment, n'oublions pas ces deux paramètres, finaliser l'apprentissage par une activité qui mobilise les élèves, et faire effectuer ces apprentissages individuellement aussi, donc selon des procédures différenciées, adaptées à chacun, que l'on peut véritablement parler de différenciation pédagogique. Vous voyez, c'est un exemple de ce que je voulais dire tout à l'heure, quand j'insistais sur le fait qu'il faut faire, il faut s'appuyer sur des travaux existants pour aller, je dirais, il faut aller aux sources de la différenciation pédagogique pour savoir de quoi on parle aujourd'hui et comment on peut aider aussi les enseignants qui veulent se lancer dans ces pratiques.
Du coup, en effet, voilà, on a dans au sein de nos classes un public vraiment très divers avec des niveaux très très différents. Alors, comment mettre en œuvre cette différenciation simplement?
Alors, la grande difficulté, c'est que la différenciation pédagogique, c'est justement pas quelque chose de simple à mettre en œuvre. C'est l'enjeu, je disais tout à l'heure, c'est l'enjeu le central aujourd'hui et déjà depuis pas mal d'années de notre système éducatif, mais c'est certainement ce qui est le plus difficile à faire. Donc il faut s'y former et cette question de l'absence de formation des enseignants est un premier point que je veux souligner. Alors pour apporter néanmoins quelques éléments de réponse, je dirais que tout commence par une évaluation des niveaux des élèves. Donc une évaluation par compétence, par niveau d'acquisition de savoir est indispensable. Ce que les élèves savent, ne savent pas faire, doit d'abord être connu de l'enseignant. Donc il y a les brevets chez Freinet ou les ceintures de la pédagogie institutionnelle qui sont des réponses possibles à condition de ne pas les utiliser isolément sans d'autres techniques, outils, institutions proposées par ces pédagogies. Bon, là, on rentre évidemment dans des dispositifs pédagogiques, dans des pédagogies qui nécessitent d'être bien formées. Mais pour être un petit peu plus simple dans un premier temps, moi, quand je préparais ma classe, j'avais toujours en tête deux préoccupations. Est-ce que la tâche que je vais proposer à mes élèves va les intéresser d'une part, et d'autre part, est-ce que cette tâche est adaptée à leur niveau, c'est-à-dire ni trop facile ni trop difficile, ce que le psychologue Vygotsky appelle la zone proximale de développement. Est-ce que je m'adresse à cette zone, la seule où les élèves apprennent? Alors, pour être un peu plus concret encore, je pourrais donner peut-être deux exemples parce que c'est difficile de parler de différenciation pédagogique simplement. Par exemple, pour une même tâche, une fois qu'on a clarifié ce qu'on appelle l'objectif noyau, les concepts qui sont visés par la séquence, essayer de distinguer différents niveaux de difficulté et de prévoir des activités correspondantes, par exemple distinguer trois niveaux, permettre aux élèves d'accéder au niveau le plus élevé en différenciant les aides, par exemple le droit d'utiliser certains supports de cours pour certains, alors que d'autres élèves n'en auraient pas forcément besoin. Donc, prévoir déjà peut-être trois niveaux de difficulté quand on propose une tâche, quand on prépare une tâche. Un deuxième exemple, si je prends par exemple une activité de correction en expression écrite. On pourrait mettre en place des groupes de travail différents en fonction de difficultés récurrentes identifiées dans les écrits des élèves. Par exemple, un groupe qui travaille sur la ponctuation, un autre sur les conjugaisons, un autre sur les règles d'accord. Et si besoin, on ferait tourner les élèves dans différents groupes. Pensez lors d'activités collectives à interroger d'abord les élèves en difficulté sur ce qu'ils savent et seulement ensuite les autres. Je donne simplement quelques exemples, mais c'est vraiment difficile de concevoir la différenciation pédagogique d'une façon simple. C'est pour ça qu'il est important sans doute d'y travailler avec d'autres, de travailler peut-être avec des enseignants plus expérimentés qui la mettent en œuvre, de ne pas rester seul quand on pratique une pédagogie comme ça, difficile, différente. On a besoin d'échanger ces expériences avec d'autres enseignants qui pratiquent aussi, qui essaient aussi d'avoir ces pratiques. J'ai eu l'occasion cette année dans l'Académie de Versailles, à la demande d'ailleurs d'une inspectrice d'allemand, de rencontrer une douzaine de professeurs qui avaient mis en place des expériences de différenciation pédagogique et on a eu un échange très intéressant à partir de leurs expériences, de tous les comptes rendus qu'ils avaient écrits et que j'avais lus, qui a vraiment permis de montrer d'abord que ces enseignants avaient des pratiques déjà assez, pour certains d'entre eux, assez élaborées et très différentes de pédagogie différenciée, et que les uns pouvaient se nourrir du travail des autres pour progresser dans leur propre pratique. Donc je crois que c'est ce qu'il faut travailler. Et je vous dirais que à chaque fois qu'on me demande d'intervenir sur la différenciation pédagogique ou la pédagogie différenciée, je préfère partir d'analyse de pratique d'enseignant ou de compte-rendu de pratique plutôt que de faire une conférence un peu générale sur ce qu'est la différenciation pédagogique qu'on peut lire dans les livres ou regarder sur des sites internet. Ça me semble plus intéressant pour les enseignants de les accompagner à pratiquer une différenciation pédagogique à partir de ce qu'ils font déjà.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'espace classe, mais c'est vrai qu'il faut peut-être, est-ce qu'il faut forcément revoir la classe différemment de l'espace?
Alors, la question de l'espace classe, de mon point de vue, elle doit s'adapter évidemment aux activités qu'on pratique. C'est-à-dire que un plan de classe correspond vraiment à ce qu'on doit faire, à l'activité qu'on mène. Parfois, il est nécessaire de mettre les élèves en groupe. Parfois, il est bien qu'ils soient à deux, face au tableau, y compris quand on a du travail en binôme. Moi, je sais que j'utilisais beaucoup l'entraide entre deux élèves, assis côte à côte, en ayant pris soin de ne pas les mettre n'importe comment l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire mettre un plus fort peut-être dans un domaine avec un moins fort, etc. Donc, le travail en binôme peut tout à fait s'accorder avec une disposition, je dirais, classique en trois rangées face au tableau. On peut d'ailleurs très vite aussi, les élèves de devant se retournant, arriver à des groupes de quatre assez facilement. Et puis, quand on a besoin effectivement d'un point précis, d'un point de leçon, d'un point de connaissance très précis qui doit durer peu de temps pour être efficace, un point, on pourrait dire, de cours magistral, eh bien là, que tous les élèves soient le mieux installés face au tableau pour entendre soit l'enseignant, soit un camarade expliquer la notion me semble effectivement indispensable. Quand on est dans des situations de travail individualisé, eh bien, on peut soit rester à sa place, soit aller dans un coin où il y a un fichier de travail individualisé, où il y a des ordinateurs, si on travaille sur des logiciels. Bon. Donc, une organisation d'espace classe doit s'adapter au type d'activité qu'on conduit. Ça me semble effectivement indispensable aussi.
Bon, vous
Donc,
avez un
pas
petit...
figé, pas figé et qui peut évoluer dans le temps, y compris dans une journée.
Tout à fait. Bon, vous avez un petit peu répondu déjà à notre prochaine question, qui était est-ce que la différenciation pédagogique vise seulement les élèves en difficulté?
Alors, bien sûr que non. Il me semble qu'apprendre à son rythme dans des activités individuelles, mais aussi collectives, c'est nécessaire aussi aux bons élèves pour qu'ils développent des méthodes de travail et qu'ils acceptent aussi l'autre différent de soi, qu'ils apprennent la patience, mais aussi qu'ils confortent ce qu'ils savent. On sait que un niveau de maîtrise optimale d'un savoir tient aussi dans sa capacité à le restituer à quelqu'un d'autre. Bon, mais encore faut-il que la classe soit organisée avec des pratiques de pédagogie coopérative où les bons élèves peuvent aussi parfois aider d'autres. Des classes où on favorise l'aide, l'entraide, le tutorat. Alors peut-être là, il serait intéressant de préciser certains termes, comme justement ces termes d'aide, d'entraide et tutorat. Mon collègue Sylvain Connac, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là aussi, je lui emprunte ces distinctions. Alors il explique que l'aide est une situation dans laquelle une personne, se reconnaissant compétente, apporte spontanément et de manière ponctuelle ses connaissances à un tiers qui en fait la demande. Donc, dans l'idée d'aide, il faut plusieurs conditions. Qu'il y ait une demande. Hein. Pour qu'elle soit pertinente, cette aide, il faut qu'elle réponde aussi à un problème et qu'elle soit élaborée d'une façon compréhensible, appropriée à la demande. Donc, l'apprenant, je le disais, doit le demander. Cette aide doit être fournie rapidement et comprise aussi de l'apprenant. Et enfin, cet apprenant doit pouvoir l'utiliser dans et hors contexte. Alors ça, c'est pour l'aide. L'entraide, c'est une interaction entre plusieurs personnes de même niveau de compétence. Donc, ce n'est pas la même chose que l'aide, puisque là, les niveaux de compétence sont équivalents. Donc, des personnes qui rencontrent une même difficulté. Et elles se réunissent ensemble pour tenter de résoudre cette difficulté. Le troisième terme qu'on emploie souvent, c'est le tutorat. Alors, il répond au même principe que l'aide, mais avec un niveau d'institutionnalisation différent, puisqu'il réunit deux personnes de niveau de compétences inégaux, où l'expert accompagne jusqu'à ce qu'il devienne autonome dans le domaine pour lequel il est sollicité. Il y a d'autres termes aussi qui me semblent intéressants à regarder dans les travaux de Sylvain Connac. On parlait d'individualisation tout à l'heure. Il explique par exemple que il donne aussi une définition de l'individualisation des apprentissages. Il dit que c'est l'ensemble des organisations pédagogiques qui confient un travail particulier à chaque élève, et cette individualisation, elle peut se décliner de trois façons. Soit le travail individuel, soit le travail isolé, soit le travail individualisé. Et donc, il fait des distinctions, il précise que l'individualisation nécessite trois conditions. Elle doit se faire pendant le temps scolaire. Il ne s'agit pas d'externaliser les difficultés d'apprentissage, qui est aussi une autre, je dirais, une autre tendance du moment très forte. Donc, pendant le temps scolaire ordinaire, en équilibre avec des situations coopératives et via des activités qui font sens pour l'élève. Il lui développe une autre notion qu'il appelle personnalisation, pour éviter aussi peut-être cette confusion avec l'idée actuelle d'individualisation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail individuel et l'individualisation des apprentissages, c'est une vieille notion et une vieille pratique des pédagogies du courant de l'éducation nouvelle. Ce n'est pas une pratique nouvelle. Voilà.
Donc, le travail individuel, c'est par rapport à l'individualisation. Vous pouvez préciser un petit peu la nuance?
Alors, je dirais que le travail individuel, c'est l'élève qui travaille seul. Bon. Dans la notion de travail individualisé, je pense qu'il y a la notion de programmation, c'est-à-dire que ça a été l'enseignant a conçu par rapport à identifier d'abord des difficultés d'élèves et à partir de ces difficultés conçu, c'est Freinet notamment qui a repris ça, la notion de plan de travail, c'est-à-dire que c'est un travail qui est en partie, on va dire, négocié entre l'élève et l'enseignant, mais qui s'appuie sur des difficultés identifiées des élèves. L'élève est conscient qu'il a ces difficultés et donc il s'engage dans un processus d'auto-formation, alors que le travail individuel, c'est un petit peu, on laisse l'élève tout seul, mais je veux dire, il n'y a pas forcément une intention derrière une préparation, une planification du travail. C'est ça que je voulais dire.
D'accord. Donc le travail individuel correspond plus à une découverte de connaissances ou un travail sur des compétences sur lesquelles pour l'instant on ne cherche pas à faire de la remédiation.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on laisse l'élève travailler tout seul. On lui propose une activité puis on le laisse travailler seul. Bien sûr, l'activité, elle peut avoir été pensée en amont, mais elle n'est pas forcément, elle n'est pas individualisée au sens où le travail individuel peut concerner plusieurs élèves qui font la même chose au même moment, un groupe d'élèves dans la classe. Le travail individualisé va être vraiment pensé, me semble-t-il, en fonction d'une planification au préalable, c'est un travail qui est planifié au préalable à partir de difficultés identifiées chez un élève en particulier.
D'accord.
Donc c'est plus précis, c'est plus précis.
Est-ce qu'il y a des outils pour différencier en utilisant les modes de pensée et les stratégies d'appropriation?
Alors, je crois d'abord que c'est des professeurs qui ont besoin d'outils pour mieux connaître ces modes de pensée et ces stratégies d'appropriation des élèves face au savoir. Donc je pense que je reviens à la question de la formation, mais je pense qu'il faut outiller les enseignants d'abord. Et là, je citerai d'abord un premier ouvrage auquel je me réfère quand je parle de ces questions-là. C'est l'ouvrage de Przeminski qui s'appelle « La pédagogie différenciée » en 2004. Elle distingue 7 modes de pensée, pensée inductive, déductive, créatrice, dialectique, convergente, divergente et analogique. Et je crois qu'un professeur, quand il prépare sa classe, doit se demander lequel ou lesquels de ces modes de pensée il mobilise dans sa tâche. Certains modes de pensée vont convenir mieux à certaines situations. Mais ce qui me semble indispensable, c'est que l'enseignant ait toujours en tête qu'il doit permettre à ses élèves d'apprendre à utiliser l'ensemble de ses modes de pensée selon les situations. Donc ça revient aussi à diversifier les situations d'apprentissage. La deuxième idée là, qui est développée dans l'ouvrage, c'est la question des stratégies d'appropriation d'un contenu de savoir. Alors, on distingue souvent stratégie globale ou stratégie synthétique d'un côté et stratégie analytique de l'autre, ce qui renvoie à des débats parfois stériles, je pense notamment à l'apprentissage de la lecture. Et de même que pour les modes de pensée, il me semble qu'un professeur doit avoir à l'esprit que selon les contextes, ces deux stratégies vont devoir être mobilisées. Et ce que les pédagogies différentes nous apprennent, ce que le patrimoine pédagogique nous apprend, du point de vue des pédagogies actives, c'est que l'élève a d'abord une approche globale des savoirs, parce que c'est ça, cette approche et ces savoirs, ils lui viennent d'une première expérience souvent imprécise, mais que c'est en partant de cette première expérience qu'il peut entrer plus précisément dans les concepts à acquérir. Et donc, la question logique qui va se poser au professeur, c'est plutôt de se demander quel va être le meilleur moment, le moment le plus opportun, pour le mettre en présence d'éléments d'analyse suffisamment pertinents pour qu'il maîtrise le concept visé. Donc, l'appréhension de départ, elle est forcément globale. C'est ensuite qu'il s'agit de réfléchir au bon moment et quels sont les outils à développer, à proposer aux élèves pour analyser ces contenus de savoir. Alors, les manuels scolaires, un certain nombre de manuels, je pense aux travaux de Roland Guagou sur la lecture, mais d'autres aussi, proposent, si on prend l'apprentissage de la lecture, proposent des outils d'analyse, hein, donc pour rentrer dans cette démarche analytique. Mais ce qui me semble important, c'est que l'enseignant ait en tête qu'il va y avoir les deux. Pour résumer très succinctement, si on prend toujours si je suis l'exemple de l'apprentissage de la lecture, travailler sur des stratégies d'analyse de codage est tout à fait essentiel. Mais si les élèves ne comprennent pas ce qu'ils lisent, quels sont les personnages, quelles actions ils font, voilà, quel est le sens de ce qu'ils lisent, eh bien, les élèves vont être très vite aussi en difficulté. Donc souvent, il va falloir effectivement amener les élèves à combiner différentes stratégies de pensée, différentes stratégies d'appropriation d'un contenu de savoir. Alors, je citerai aussi d'autres ouvrages plus récents, bon, Jean-Pierre Astolfi, La saveur des savoirs, c'est déjà ancien, 2008, mais deux autres ouvrages aussi de Jacques Bernardin, Le rapport à l'école des élèves de milieu populaire, en 2013, et un autre aussi de Brick-Marie Barthes, en 2013, Élèves, chercheurs, enseignants, médiateurs, donner sens au savoir. Dans ces différents ouvrages, il me semble que les auteurs prennent appui sur ce qu'on sait aujourd'hui de l'apprentissage, c'est-à-dire les théories constructivistes et socio-constructivistes, en travaillant notamment sur les concepts de champs conceptuels, d'objectifs, d'obstacles, de problèmes et de problématisation. Et ils montrent en quoi certaines interactions sociales favorisent l'identification des problèmes et des objets de savoir à acquérir, et donc aussi permettent aux élèves d'être réflexifs sur ceci. En relation avec la façon dont ces savoirs ont été constitués, donc ce qu'on appelle l'épistémologie des savoirs, et puis aussi en relation avec les caractéristiques de ces objets. Donc, et enfin, également aussi en situant ces objets de savoir dans un rapport à la culture. Et chez Brick-Marie Barthes notamment, dans son ouvrage et sur le site internet qui lui est lié, il y a des exemples de séquences qui sont proposées et commentées, où elle explique comment permettre aux élèves de comprendre, par exemple, des concepts. Et elle donne effectivement toute une démarche. Donc, moi, il me semble que ce sont ces outils-là d'abord qu'il faut apporter aux enseignants, plus que des outils clés en main, qu'ils appliqueraient sans comprendre de quoi il s'agit, parce que comme je le disais tout à l'heure, la pédagogie différenciée, c'est vraiment quelque chose de complexe. Donc, avoir des outils clairs sur d'où vient le savoir, d'où vient tel contenu de savoir, comment il a été constitué, les caractéristiques d'un concept, quel est l'objectif obstacle que l'on cherche à faire, que l'on cherche à faire acquérir aux élèves. Ça me semble effectivement des outils essentiels pour que les enseignants s'y retrouvent un petit peu quand ils préparent leur classe.
Très bien.
Est-ce que vous pourriez voir, vous, une gradation dans la mise en œuvre de la différenciation au sein de sa pratique pédagogique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se dire, on peut commencer par là, parce que des fois, ça peut faire peur,
bien sûr.
Et se dire, je commence par là.
Oui, c'est un petit peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure dans la question 4, mais je vais juste le reprendre un peu. Je crois qu'on peut déjà, quand on a identifié un objectif, qu'on appelle un objectif noyau, hein, objectif obstacle, objectif noyau, c'est-à-dire quand on aborde une nouvelle notion, ce que les élèves doivent acquérir. Bon, quand on a identifié cet objectif, essayer de distinguer des niveaux de difficulté et donc faire correspondre des activités à ces niveaux. Donc déjà, peut-être distinguer trois niveaux. Bon, ça, c'est une première chose. Je pense que c'est une première chose, arriver à distinguer des niveaux. Mais la grande complexité, c'est que dès qu'on est sur une pratique de différenciation pédagogique, il faut tout de suite réfléchir à l'évaluation. C'est-à-dire on part d'une identification des difficultés des élèves. Donc ça vient poser la question presque d'emblée de que savent faire les élèves, donc comment les évaluer. Et évidemment, ce que les enseignants ont besoin, c'est d'une évaluation par compétence, par niveau d'acquisition des savoirs, mais avec des objectifs, facilement évaluables. C'est-à-dire que parfois, dans les livrets officiels, on a des objectifs beaucoup trop généraux, insuffisamment opérationnels. Donc, les enseignants ne peuvent pas en faire grand-chose. Il faut avoir des niveaux d'objectifs, plus facilement évaluable. Je vais prendre juste un exemple peut-être. La conjugaison du verbe être au présent. Bon. Il y a différents niveaux de maîtrise de cette compétence. Le premier niveau, c'est de réciter, d'écrire même sur papier « je suis, tu es, il est » comme on l'a appris à l'école, quoi. Enfin, comme on le fait de façon assez simple, donc d'écrire la conjugaison. Bon. Il y a un deuxième niveau de maîtrise dont les didacticiens d'ailleurs du français disent qu'il n'est pas forcément utile et efficace, c'est les fameuses phrases à trous où on va effectivement mettre la forme verbale correspondante au sujet. Donc on a des formes verbales, quelque part, on a des sujets, des phrases où le verbe est manquant, et puis donc on va mettre le verbe être qui correspond avec le bon sujet. Et puis un troisième niveau de maîtrise qui est le plus évidemment complexe, c'est dans des activités d'expression écrite, être capable de réutiliser cette conjugaison du verbe être au présent sans faire d'erreur. Bon. Et ça, c'est une compétence qui va se travailler à chaque fois qu'on va être mis en situation d'activité d'expression écrite, vous voyez. Mm-hmm. Alors là, on va devoir développer, un enseignant doit développer des aides, des mémos, il y a des outils aussi, bon, il faut regarder les outils bien sûr du commerce, mais avoir une sorte de cahier de règles relativement simple, un aide-mémoire où l'élève va pouvoir se référer à quelques règles de base en orthographe, grammaire, conjugaison pour pouvoir aller corriger ses erreurs au fur et à mesure qu'il va effectivement, à force de voir les mêmes erreurs, eh bien il progressera comme ça. Mais c'est sûr que si on revient au premier niveau de maîtrise que j'évoquais tout à l'heure, ce niveau-là est insuffisant pour permettre de dire que l'élève a maîtrisé cette compétence. Mais là, au moins, je dirais avec cet exemple, on a des compétences facilement évaluables. C'est-à-dire l'enseignant peut dire l'élève sait ou ne sait pas. Donc, arriver effectivement, quand on construit un système d'évaluation des compétences, d'arriver à faire en sorte que ces compétences soient formulées en termes d'objectifs évaluables et pas d'objectifs trop généraux. Ça, c'est vraiment un premier niveau de travail. Mais sans doute, on ne peut pas faire ça seul, il faut travailler avec d'autres enseignants, je crois.
Oui, donc en fait, nous, notre formation, elle est justement dans le cadre de liaison école-collège. Et on
Ouais.
pourrait imaginer qu'au sein du bassin, ils travaillent justement sur ces compétences du socle et de les décliner en petits objectifs opérationnels, c'est-à-dire voilà, comment j'évalue la
Bien
conjugaison.
sûr, bien sûr. Je pense en français notamment. C'est vrai que le programme de sixième, je pense ne pas dire de bêtises, mais me semble pas forcément trop éloigné du programme de CM dans la maîtrise de cycle 3, je dirais, dans la maîtrise des compétences d'expression écrite ou orthographique ou grammaticale. Donc, il y a certainement moyen, et on sait très bien, en plus, là, beaucoup de chercheurs l'ont montré aussi, que en expression écrite, si je prends toujours cet exemple, les élèves ont tendance à faire toujours les mêmes erreurs. Donc, il n'y a pas infiniment d'erreurs sur lesquelles, finalement, il faut travailler. Mais le côté entraînement enfin, méthodique, correction méthodique de son travail d'expression écrite, je parle là d'un point de vue strictement orthographique, orthographe, grammaire, conjugaison, le style, c'est autre chose, hein. Mais je dirais que pour maîtriser effectivement les règles de base de l'écriture du français, eh bien ce travail systématique peut tout à fait être mené par des enseignants de CM1, CM2 et des enseignants de 6e, mais bien sûr, ensemble, parce que les objectifs sont communs.
Si on veut en savoir un peu plus sur vous, comment peut-on vous contacter sur Internet ou en savoir un peu
Alors, vous
plus?
pouvez me contacter. Bon, j'ai une page sur mon université, à l'université de Cergy-Pontoise, mais vous pouvez aussi me contacter par mail à mon adresse, donc tout minuscule, bruno.robes, robes, @u-cergy.fr.
D'accord. Et vous
Voilà.
avez des travaux en ligne, des choses comme ça, des.
Alors, sur la pédagogie différenciée, bon, il y a un fameux article en ligne qui est sur le site de Philippe Mérieux. Que je sais qui est beaucoup consulté. Donc, en tapant mon nom et pédagogie différenciée sur un moteur de recherche, très vite on tombe sur ce texte, qui est un texte, oui, qui fait une trentaine de pages, bon, qui mériterait sans doute d'être aujourd'hui, me semble-t-il, enfin, amélioré en utilisant notamment tous les travaux sur les savoirs que j'ai évoqués là dans les réponses à vos questions. Les travaux d'Astolfi, les travaux, même si j'en parle déjà d'Astolfi, mais les travaux plus récents d'Astolfi, de Brick-Marie Barthes ou de Jacques Bernardin. Donc je crois qu'il faudrait effectivement enrichir cet écrit de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les savoirs, la façon dont ils sont construits et le type de rapport au savoir que les élèves ont aussi, les notions de concept, les notions d'objectif-obstacle, voilà. Ça mériterait d'être enrichi, mais c'est déjà une bonne base, je pense, de connaissances que d'aller consulter ce texte sur le site de Philippe Mérieux.
Ben
Eh
encore un
bien,
grand merci.
Oui, merci,
merci
monsieur
à
Rob.
vous et donc à votre disposition.
Merci,
Au
au
revoir,
revoir.
bonne continuation.